Donc nous allons faire notre dernière méditation assise. Donc de nouveau, pour la méditation assise, trouver une encre qui nous convient. Et puis donc on peut soit utiliser la respiration, le corps, écouter les sons, ou toute autre technique que nous avons appris qui nous aide. Je pense que c'est important de voir que c'est pas tellement la technique qui importe, mais le fait qu'elle nous convienne, le fait qu'on puisse soutenir cette pratique avec cette encre pendant un certain moment, et bien entendu toujours avec cette attitude bienveillante. On n'essaie pas de créer en plus de tension qu'il y a avec la méditation, mais on essaie de un peu de, c'est comme un peu essayer de se poser sur cette encre, donc d'utiliser l'ancrage comme une façon de se poser et en même temps de s'ouvrir à ce qui existe. Et puis bien sûr, si vous trouvez la question utile, de temps en temps, pendant les 30 minutes, vous pouvez apporter la question, soit pour juste faire la question si ça vous convient, ou pour apporter un peu de peps, d'énergie à la méditation, si on se sent un petit peu somnolé, fermer les yeux, essayer de se redresser un petit peu, ouvrir les yeux un peu, et peut-être apporter cette question, qu'est-ce que c'est, comme aussi un moyen d'être un peu plus vivace. C'est un peu sa particularité à cette pratique, c'est d'apporter un peu de vivacité, de vitalité, surtout dans la psyché. Donc si on trouve une position confortable, finir avec un peu de méditation debout. Donc de nouveau on se lève tout doucement comme on peut. De nouveau on peut bien sentir ses pieds sur le sol ou sur le tapis. Bien sentir son corps debout sur ses jambes. Mais aussi peut-être un peu ressentir la gravité de la terre avec les bras qui penchent vers le sol, le poids des bras qui les amènent vers le sol. En même temps, on essaie d'avoir une posture qui est droite, qui est grande. Pleinement conscient de ce corps, dans son environnement ici et maintenant. Et peut-être poser cette question deux ou trois fois, silencieusement. Qu'est-ce que c'est ? Puis après, on peut bouger un petit peu d'un côté, de l'autre. S'étirer un petit peu d'une façon qui nous convient. Après, on peut ouvrir grand les yeux, se se tourner un peu d'un côté de l'autre, voir les gens, leur sourire. Et voilà, merci. Donc pour cette... cette dernière session, donc discussion ouverte, si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit d'autre.
Oui. Hier, vous aviez évoqué un état un peu rêverie en méditant. Vous avez raconté un moment où vous imaginez.
Non, vous pouvez parler un peu plus fort.
Vous avez raconté hier un moment où vous étiez dans un état de rêverie en méditant. Vous imaginiez une situation où vous étiez dans un temple, vous atteignez un... Est-ce que c'est vraiment un état méditatif quand on est...
Ah non, ça, ami, ma description n'était pas du tout un état méditatif. Ma description était une tendance que j'avais depuis assez jeune, en fait. Où je partais, mais vraiment dans des, on pourrait dire des rêves éveillés. Mais il y a deux, quand on s'assoit en méditation, il y a deux sortes d'états de rêvasserie, on pourrait dire. Un état, on est en fait endormi, le corps est endormi, mais on reste quand même debout, enfin, dans la bonne posture. Et en fait, on rêve, mais vraiment comme si on dormait. Alors, on a un rêve incroyable, souvent. Et puis, tout à coup, on se réveille et on se dit, mais j'étais où ? C'était quoi ça? Et souvent, les gens pensent qu'il y a une grande signification. Pas du tout. C'est juste, on était endormis, mais on a réussi à tenir dans la bonne posture. Et ce que je décrivais était différent de ça, dans le sens que c'était en fait vraiment une habitude mentale que j'avais, qui était de partir dans vraiment des rêvasseries, des films que je me faisais. Et donc, et je pense que beaucoup de gens font ça. Ça passe le temps très agréablement. Donc, cette habitude mentale vraiment est provoquée et générée par la réaction ou l'amènement, la production de la tonalité agréable. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Et donc, on crée un film où on est l'héroïne pour moi et les choses font ci, font ça. Et voilà. Ça, c'est ce dont je parlais, ce n'est pas du tout un état méditatif. Parce que je dirais, enfin, il peut y avoir différents états méditatifs. Il y a différentes classifications. Les gens ont aussi différentes idées par rapport à ça. Mais je dirais que généralement, pour moi, un état méditatif bénéfique, généralement un état où on est très clair et en même temps très calme et conscient de ce qui se passe. Mais où... l'état de conscience est juste la fonction d'être ici et maintenant, et où il n'y a pas de... on ne se raconte pas des choses, où on ne part pas dans des trucs, on est juste totalement présent ici et maintenant. Donc, ça, c'est un état méditatif.
Parce que je trouve que l'exercice qu'on a fait hier, on peut vite être dans cet état un peu de rêverie, de...
Quand on fait ces phrases.
Ouais.
Alors ça, c'est un peu ce qu'il faut faire très attention avec les phrases. C'est que quand on fait les phrases, c'est vraiment dans l'intention de faire la méditation, donc l'ancrage. Les phrases opèrent comme un ancrage, si on utilise les phrases. Donc on revient aux phrases, on revient aux phrases... Et si on revient aux phrases, on revient à aussi l'expérience ici et maintenant. Et en même temps, il y a cette direction, cette intention vers la joie appréciative, altruiste, qui va regarder soi-même, regarder les autres un peu différemment. Donc ça va nous aider un peu à changer l'optique, qui est un peu fixe. Tu ne fais pas assez d'efforts. Si tu faisais assez d'efforts, tu ferais ci, tu ferais ça, ou... différentes choses. Et donc, mais le problème avec ces phrases, c'est que elles peuvent être assez aussi évocatrices. Il peut y avoir une certaine résonance et on peut partir, comme vous dites, dans des rêveries, soit « oh, ça serait bien si c'était comme ci, si c'était comme ça », ou on peut partir dans, surtout quand on fait les catégories, on peut partir dans des rêveries par rapport à cette personne ou cette personne. Et donc, quand on fait cette méditation, généralement, on dirait que si ça génère plus de pensées, on revient à un objet plus simple, qui ne génère pas des pensées comme ça, qui deviennent plus des pensées distraites. Parce qu'on peut aussi faire la méditation, et soudainement, on peut avoir, je dirais, des pensées, c'est un peu souvent, je pense, des pensées, on pourrait dire, révélatrices, éclairantes, et qui ne sont pas répétitives. Et donc, soudainement, on voit quelque chose qu'on n'a pas vu avant, et donc, on va pouvoir l'explorer un petit peu, parce que c'est, on voit quelque chose plus clairement, on peut l'explorer, et à un moment donné, ça partira, l'éclairage partira, et en fait, après, on va répéter ce qu'on s'est dit pour pouvoir le raconter à quelqu'un d'autre ou l'écrire sur un papier. Et là, généralement, on peut de nouveau laisser tomber, revenir à quelque chose de plus simple. Oui.
Lorsque dans une méditation, on est peut-être tiré vers une tonalité un peu négative par la position, par la douleur physique, et on accueille bien sûr, mais que malgré cet accueil parsemé, on a beaucoup de mal, on est pris dedans. La phrase « qu'est-ce que c'est ?», je dois dire, a une bonne fonction, mais quand cette douleur est très forte, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme...
Alors, il y a d'abord le moyen, enfin si on peut, le moyen c'est de changer de posture, d'être dans une posture qui ne vous provoque pas de douleur. Ça c'est très très important. Et donc quand on s'assoit en méditation, en fait, il est vrai qu'un endroit comme cela ne va pas, si on a des douleurs lombaires ou quoi que ce soit, ne va pas être très adéquat. Enfin, c'est pour ça que moi j'ai deux coussins. Parce qu'autrement, je ne pourrais pas faire la journée sur ces chaises. Donc, il y a un petit peu un problème avec ça. Mais si on peut, la première chose, c'est est-ce que je peux trouver une posture où j'aurai moins mal, moins longtemps? Parce qu'il y a une différence entre vous êtes assis 30 minutes et au bout de 20 minutes, vous avez un peu mal, mais bon, ça va. Vous êtes assis, après 3 minutes, vous avez mal et ça s'empire pendant le reste. Ça, c'est vraiment, c'est pas l'idée de la méditation. Donc, je dirais généralement, si on ne peut pas changer de chaise, par exemple, on peut se mettre debout. Donc, on peut se mettre debout si ça nous fait moins mal d'être debout. Ou autrement, si à la place, et si on veut faire d'une façon confortable, je recommanderais de s'allonger. Parce que vraiment, je pense qu'il faut vraiment faire attention par rapport à l'assise. Qu'on ne provoque pas trop de douleur quand même, même s'il peut y en avoir un petit peu. Et une chose qu'il faut vraiment faire attention par rapport à ça, c'est que quand on se lève, la douleur disparaît. Et donc c'était juste parce qu'on était assis sur une chaise pendant un certain moment. Parce que si la douleur continue, que vous n'aviez pas avant que vous soyez assis sur la chaise, vraiment il faut faire attention à ça. Donc de faire très attention au corps à cause de ça. Après, si, quand on est assis en méditation, on a beaucoup de douleurs, la façon dont ça va pouvoir être, on peut être avec, va dépendre de comment on sent. Parce que si on se sent bien, on peut en fait pénétrer à l'intérieur de la douleur et en faire l'expérience différemment. Mais on va généralement pas pouvoir maintenir ce niveau d'attention, de pénétration, très longtemps. On pourra le faire sur une assise. Mais je ne pense pas qu'on... Généralement, on ne peut pas le faire tout au long cours. Alors là, je recommanderais aussi de prendre des antidouleurs, si ça peut aider. Il y a aussi ça à voir. Et bien sûr, de faire attention à la position. Donc, et aussi de faire attention de comment on peut faire pour avoir moins mal. Ça, c'est la première chose. Après, quand on a mal, ça va vraiment dépendre Parce que si on se sent bien et qu'on a mal, on peut aller à l'intérieur. Et on peut faire l'expérience de la douleur d'une façon différente sur une certaine période de temps, mais bien sûr pas trop longtemps, parce qu'on ne peut pas maintenir ce niveau d'énergie. Mais si on ne se sent pas bien, si on se sent fatigué, on ne va en fait pas avoir la force d'être avec cette douleur de cette manière-là. Je pense qu'il faut vraiment voir que ça va dépendre des conditions. Et donc c'est pour ça que généralement, je dirais de ne pas trop se forcer. Alors bien sûr, comme vous dites, si je pose la question, mon focus, ma focalisation part sur la question, la douleur est à l'arrière-plan et je vais la ressentir différemment. Et donc là où il faut faire attention, c'est j'ai une douleur. Est-ce que je me focalise sur quelque chose d'autre? Donc la douleur est à l'arrière-plan et va pas trop m'embêter et ça va pas être contre le corps quand on se lève. Ou on se focalise sur la douleur, mais là il faut voir. On se focalise sur la douleur, on va à l'intérieur, on est consciente du changement et on ressent la douleur différemment. Mais des fois, on a la douleur dans le corps, comme vous disiez, et alors, on se focalise sur la douleur, et en fait, de se focaliser dessus, ça l'intensifie. Et alors là, ce n'est pas une bonne idée de faire ça, et donc, généralement, c'est mieux de mettre le focus au bas, ou bien sûr, de trouver un moyen d'avoir moins de douleur, de se lever, de s'allonger, de marcher un peu. Oui.
Justement, pour continuer cette question, dans les dojos zazen, zazen à Paris, en tout cas en France, c'est très strict avec la position zazen. Et ils disent que ça dépend finalement de cette position, ça dépend de la méditation. Que ce n'est pas pareil si on est assis sur le fou, les genoux par terre, ou si on est assis sur le banc de méditation. Est-ce que c'est vraiment...
Alors, il faut voir que... Il y a beaucoup de chances que vous parlez d'un groupe qui est peut-être Soto-Zen ou Rinzai-Zen. Soto-Zen. Donc, s'ils sont Soto, parce qu'ils n'ont pas d'ancrage. Normalement, ils n'ont pas d'ancrage, à part des fois, ils peuvent suggérer la respiration, mais généralement, il n'y a pas d'ancrage. Quand vous n'avez pas d'ancrage, parce que c'est une des méditations les plus difficiles à faire, vous n'avez pas d'ancrage, vous êtes juste assis ici et maintenant sans rien faire. Ils ont reporté la focalisation sur la posture. Et donc, ils misent tout sur la posture à cause de leur technique de méditation. Et donc, ça va dans ce cadre-là. Pour eux, ça va être très important d'avoir une très bonne posture. Mais le problème avec cette, je dirais, argumentation, c'est que ça va bien avec la personne qui peut être dans la posture parfaite, mais ça ne va pas marcher avec la personne qui ne peut pas. Et donc, ça va être difficile. Voilà, donc moi, je suis plutôt de l'autre côté qui dit qu'il faut voir ce qui marche, ce qui vous va, et qui ne... Alors, ce qu'ils font, c'est un peu ce qu'ils sacralisent une sorte de posture qui convient à un certain nombre de personnes ou un certain nombre de personnes arrivent à le faire. Mais un certain nombre vont être un peu laissés sur le côté parce qu'ils ne peuvent pas. Alors moi, j'étais une fois, c'était au Japon, avec des nonnes Soto, et j'avais déjà passé mon cap à cause de ma sciatique, et là, je ne peux plus, moi, m'asseoir par terre. C'est fini. Et donc, je suis allée dans ce couvent. Je devais y passer 3 jours. Je devais faire de la méditation avec eux. Et il fallait normalement s'asseoir sur le tatami, dans la bonne posture. Et moi, je leur ai dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, à contre-cœur, mais parce qu'ils avaient de la compassion et que j'étais venue de loin, j'ai pu avoir une chaise. Mais c'était extraordinaire que je puisse avoir la chaise.
Rinzai, c'est différent?
Rinzai, oh non, ça va être pareil. Même un peu pire, mais ça sera une autre optique. La posture sera toujours sacralisé, mais d'une autre façon. Donc, ça sera presque pas pire, mais ça sera presque plus dur avec le rinzai, mais japonais. Parce qu'il y a d'autres rinzai qui seront un peu plus cool, on pourrait dire. Mais le rinzai japonais est très fort. Rinzai ou soto est très formel. Mais leur optique pour la posture va être, la théologie de la posture va être un tout petit peu différente.
Je me demandais si la question, qu'est-ce que c'est, ça a quelque chose à voir avec la méditation zen?
Ben, c'est de la méditation zen. Je n'avais pas le temps, je n'allais pas vous raconter toute l'histoire. Donc, moi j'ai été une nonne bouddhiste, son coréenne. Donc son, en fait, c'est la prononciation coréenne pour le mot chan en chinois qui, en japonais, devient zen. Alors maintenant, tout le monde connaît le mot zen et personne connaît le mot chan ou le mot son. Mais c'est la même calligraphie qui, en fait, calligraphie qui représente un terme bouddhiste qui est jhana. Jhana, qui peut se prononcer jhana ou dhyana, ça dépend si c'est du sanskrit ou du pali, et qui veut dire généralement état méditatif ou méditation. Et donc, quand j'étais en Corée, ils suivaient donc ce qu'on pourrait appeler du zen, c'est ce que les gens connaissent ça sous ce nom, du zen. Et donc c'était, bien sûr, la question qu'est-ce que c'est, et ce qu'on appelle en Corée un wadu, en chinois un watao. Au japonais, ils se sont plus concentrés sur le koan. Et donc, le wadao, le wadu, vient du koan. Alors, le koan, c'est toute l'histoire. Et du koan, de toute l'histoire entre généralement un maître et un disciple, une phrase surgit qui va être une phrase clé, comme qu'est-ce que c'est, qui est l'histoire du sixième patriarche qui rencontre un jeune homme. Donc, Wineng rencontre Huizhang, et de cet échange ressort la phrase clé, qu'est-ce que c'est? Donc, toute l'histoire, c'est le Koan. De nouveau, le Koan est mis à toutes les sauces, on le voit un petit peu partout, dans les magazines, je les vois référés. Et en Corée, ils ont mis l'accent, qui est un peu comme en Chine aussi. Ça a un peu changé avec les Japonais qui ont un développement historique un peu différent. Et donc, ils ont plus mis l'accent sur la phrase et sur le questionnement de la phrase. Au Japon, on devient plus le koan. Et donc, ils seront à dire mou, mou, mou. Tandis qu'en Corée, ce qui est plus important, c'est de développer une sensation de questionnement dans tout l'organisme. Et donc, on va utiliser la phrase pour développer cette sensation. Mais oui, ça vient du zen. Même si ça s'appelle son en Corée.
D'accord.
Merci. Héraclie.
Cette méditation, pas que ce que c'est, mais mindfulness, elle est en grande partie basée sur la prise de conscience de nos réactions. Mais chez l'homme, beaucoup de réactions qui sont neurologiques, tout simplement. On s'inscrit dans sa physiologie, dans le cerveau reptilien. Comment cette méditation peut... Est-ce qu'elle a un effet sur la simple prise de conscience? Est-ce qu'elle diminue ses réactions ou c'est...
Je pense qu'elle diminue. Non, je pense que les Vedanas ont beaucoup à faire... Enfin, ont à faire avec les deux cerveaux. En partie, beaucoup à faire, surtout avec... déplaisant, ça a beaucoup à faire avec le cerveau de base. Moi, j'en ai fait l'expérience du cerveau de base et de la tonalité.
Et qu'est-ce que vous appelez cerveau de base?
Il y a un cerveau, ce qui généralement à la référence, c'est le cerveau reptilien qui est le premier pour le survivre. Et après, il y a le cortex. Coup,
quand vous dites base, vous faites allusion au reptilien?
Voilà, c'est ça, okay. C'est ça. Et après, il y a le cerveau qui est plus complexe et tout et tout. Et donc, moi, j'étais en train de marcher. Je marchais et tout à coup, j'ai sauté. Mais j'ai pas su pourquoi j'ai sauté. Et Steven était à côté de moi et me demande pourquoi t'as sauté. Je savais pas pourquoi j'avais sauté. Et en fait, j'avais sauté avant de voir que j'allais marcher sur un serpent. Et donc, mon corps a vu le serpent plus rapidement que... Ah, c'est un serpent, je ne peux pas marcher dessus. Et donc, j'ai fait un bond olympique. Et donc, c'est oui. Et donc, je pense que il y a un truc qui est très de survie, qui est très basé, les Védanas, vraiment, c'est une fonction de l'organisme. Et donc... Et après, mais après, il y a aussi une partie de la Védana, et avec un cerveau plus complexe, qui vient de tout le conditionnement de ce que l'on aime, que l'on n'aime pas, et tout ça. Donc, il y a ça a à faire avec les deux, je dirais. Et je dirais que l'idée est de dissoudre cette tendance sous-jacente, comme le Bouddha l'appelle, qui nous fait réagir si vite à désagréable, agréable ou neutre. Et donc, ça ne va pas... Ça ne va pas empêcher la réaction. C'est chaud. On ne va pas empêcher la réaction. Mais on va dissoudre l'amplification autour de la réaction ou les choses qui pourraient proliférer à cause de la réaction. Ouais, je pense que c'est parce que souvent, nous, on a la tonalité, puis on part avec. Mais on peut voir. Une chose intéressante, c'est quand on a presque un accident. Alors, vous passez un croisement et vous loupez, mais alors, de peu. En Angleterre, dans les trucs dévoniens, c'était souvent ça arrivait. Et ce qui se passait, c'est que, bon, on se passait, on ne se tapait pas, mais c'était juste. Et après, il y avait tout, ce n'était pas juste le truc du cerveau, tu avais tout l'adrénaline et tout ça qui passait. Je pouvais voir que il n'y avait pas eu d'accident, donc normalement je devrais être OK. Mais en fait, le corps était plein de je ne sais pas quoi, hormones, adrénaline, quoi. Oh, j'ai failli mourir, oh, j'ai failli avoir un accident. Et donc, à cause de ce contact, la tonalité qui arrive, je pouvais me voir, si je suivais le truc, de partir dans oh, « mais c'est terrible, c'est horrible, ce qui aurait pu m'arriver, oulala, et puis ci, et puis ça, et puis... » Et vraiment partir dans une grosse amplification. Et je pouvais voir qu'avec la méditation, j'étais capable de « ok, c'est arrivé, tout ce truc hormonal ou adrénaline est en train de physiologiquement passer dans mon corps, mais avec la méditation, je ne le faisais pas amplifié. Et donc, ça passait plus facilement. Et j'arrivais à la maison et j'étais pas... OK. Mais ça, je pouvais le voir. Je pouvais le voir so clairement. Je trouvais ça très intéressant d'observer ça. Oui.
Et pareil avec est-ce que tu as rencontré des personnes qui ont vécu des chocs vraiment très, des traumatismes très forts, quand on parle de stress post-traumatique, c'est des choses qui remontent à très très loin. Est-ce que la méditation peut aussi aider, peut-être plus lentement, bien sûr, avec les années à...
Alors là, il y a tout un courant. En ce moment, surtout aux États-Unis, il y a tout un courant qui se développe au sujet d'essayer de mettre ensemble toutes les études par rapport au trauma et ce que ça fait par rapport à la physiologie, par rapport au corps, parce qu'il y a tout un développement qui est en train de se faire en ce moment aux États-Unis, aussi en Angleterre. Et il y a des gens qui, donc, qui ont commencé par faire la méditation, qui, en travaillant avec les gens, se sont rendus compte que si on n'a pas de trauma comme ça, généralement, oui, ça peut nous aider. Mais s'il y a un ancien trauma comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, il y a toute une sorte de développement de gens qui se préoccupent de ça et qui sont en train d'essayer de combiner ensemble, de complémenter ensemble la pleine conscience avec tout le travail au sujet des choses traumatiques. Et en partie, donc, dans tout ça, alors, différentes personnes qui ont différentes optiques, parce qu'il y a différentes études sur le trauma et thérapies pour ça. Et en partie, là, récemment, on m'avait demandé de commenter sur un livre qui était sur le EDMR. En français ?
EMDR.
OK. EMDR, en français, qui joue... Vous avez peut-être entendu parler un petit peu, c'est, ça joue beaucoup sur les... On utilise le regard, mais plein d'autres choses. Et qui, eux, ont fait pas mal de pratiques de pleine conscience. Et donc, ils viennent juste d'écrire... l'année dernière, c'est pour ça qu'il voulait que je fasse un petit commentaire sur le dos de la couverture, de mettre ensemble un programme de EMDR et de pleine conscience, et donc d'associer les deux. Donc il y a pas mal de courants qui travaillent là-dessus, mais c'est un autre travail, je pense, parce que c'est beaucoup plus compliqué, il y a différentes choses qui entrent en cause, et on veut faire très attention qu'à travers la méditation, on ne va pas accentuer le trauma, mais trouver un moyen pour qu'il y en ait moins. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont rendus compte de ça, et qu'il y a une certaine partie de la population, il faut faire attention à la pleine conscience, parce que si on met son attention sur quelque chose spécifiquement, ça peut intensifier. Donc si c'est déjà intense, tu ne veux pas l'intensifier plus. Donc ils sont en train de regarder les connexions avec ça.
Il y a un livre en anglais sur le sujet ?
Sur le EMDR, il est juste sorti l'année dernière. C'était un monsieur et une dame en Californie. C'est facile à retrouver. Je pense que si tu fais la façon dont ils font en anglais, et si tu mets mindfulness, moi, l'autre fois j'ai cherché pour quelqu'un, le livre est apparu. Et puis après... Les gens qui travaillent sur la pleine conscience et les traumas, ça c'est, je ne sais pas s'il y a, parce qu'il y a tout un courant sur une thérapie sur le trauma, que j'ai beaucoup d'amis qui suivent, qui font des formations et tout ça, mais je ne pense pas qu'encore que quelqu'un a écrit un livre qui met les deux ensemble. Mais ils font des retraites où ils considèrent les deux ensemble. Je connais pas mal de gens qui font ça. Oui.
Moi, en fait, je médite depuis plusieurs années, mais je médite les yeux ouverts. Et j'ai essayé un peu de méditer là, avec les yeux fermés, mais en fait, j'ai tendance à m'assoupir.
Exactement. Donc, de nouveau, personnellement, je ne conseille pas d'avoir les yeux fermés. Mais, et puis moi j'ai appris en ayant les yeux ouverts, mais le truc c'est que différentes techniques vont utiliser le regard ou le non-regard différemment. Donc, si on considère plutôt d'où vient la pleine conscience, qui est plutôt le Theravada, donc le bouddhisme thaïlandais, birman et Ceylané, généralement, parce qu'ils mettent beaucoup l'accent sur la concentration, ils vont généralement vous demander de fermer les yeux. Les Zen, qui généralement veulent que vous soyez un peu plus vif et un peu plus vital, ils vont vous dire d'avoir les yeux généralement à moitié ouverts. Et donc généralement, ils vous disent d'avoir les yeux à moitié ouverts et vous vous regardez dans le vague devant vous, sans fixer quoi que ce soit. Ça, c'est très important. Autrement, les yeux deviennent un peu bizarres. Avec, dans la tradition tibétaine, Dzogchen, où c'est très important d'avoir une ouverture totale. Alors, il vous conseille d'avoir non seulement les yeux ouverts, mais de vous asseoir sur une colline avec un vista aussi grand que possible. Et donc, c'est un peu... Chaque tradition va vous dire, fermez les yeux, ouvrez les yeux à moitié, ouvrez les yeux complètement. Et je pense que c'est ce qui va vous convenir. Alors, il y a ce qui vous convient, et il y a aussi que si on ferme les yeux, on va plus facilement s'assoupir, donc c'est mieux de les avoir ouverts. Mais si on est agité, de fermer un peu les yeux, ça peut peut-être un peu vous calmer. Et donc, moi, personnellement, j'utiliserai de ouvrir ou fermer les yeux ou à moitié comme un outil, selon les conditions. Quand vous le sentez. Parce que ce qui est important, c'est que vous puissiez faire la méditation, pas que vous ayez les yeux ouverts ou fermés.
conscience. Est-ce que les deux se mêlent ou pas?
Alors, vous répétez?
Pleine présence, pleine conscience.
Ah, allez, donc, pleine présence, pleine conscience. Alors, il y a un problème. On a un problème, en fait, en français. En français, on a un problème parce que il y a beaucoup de termes qu'on traduit de l'anglais, qui ont été, et puis qui était la traduction du pali. Et donc, au début, quand il y a eu les premières traductions, c'était seulement dans les années 1800-1820, la nomenclature qu'ils ont choisie pour traduire les termes bouddhistes, c'est en fait les termes chrétiens. Et donc, ils ont traduit sati par pleine conscience, par mindfulness, parce que dans la Bible, on utilise mindfulness, et ils se sont dit, ah, mindfulness, ouais, ça devrait marcher pour sati. Et donc, après ça, il y a eu ce mindfulness. En même temps, pendant longtemps, il y avait plein de gens qui utilisaient juste le terme en anglais, awareness. Moi, c'est ce que j'ai utilisé pendant très longtemps. Et puis après, il y a John Kabat-Zinn qui a lancé son mouvement. Et là, il a utilisé mindfulness. Et donc, mindfulness est devenu le terme référent. Et donc, maintenant, nous avons ce terme mindfulness. Et donc, même en français, je vois déjà l'association de la mindfulness. Et après, nous, on essaie de traduire. Donc, si on traduit mindfulness, ce qu'on peut faire avec le français, c'est pleine conscience. Mais c'est un peu bizarre, pleine conscience en français. Et sati, en fait, si on regarde dans le dictionnaire, sati, ça peut être traduit par présence. Donc, c'est toujours le problème de... Il y a un mot en pali qui va évoquer différentes choses. Parce qu'en pali, sati, ça veut dire une sorte d'attention, une sorte de conscience... Ça veut dire une sorte de présence, d'être présent à ce qui se passe, mais ça veut aussi dire une sorte de rappel de son intention. Et donc, il y a différentes choses à quoi ça va référer. Et après, souvent, quand on traduit, c'est le problème avec la traduction, c'est qu'on va traduire mot par mot. Donc, sati devient mindfulness, ou sati devient awareness, pleine conscience, présence, attention proche. J'ai pas le bouquin, j'ai le bouquin là, mais j'ai toute une liste de synonymes. Que si on va regarder dans un... Parce qu'il y a, en français, vous avez deux livres. Vous avez un dictionnaire pali, qui est en fait un dictionnaire qui a été fait à partir de la traduction d'un dictionnaire anglais du pali. Et moi, j'ai les deux. Il y a le dictionnaire français directement fait du pali en français, ou vous avez le dictionnaire fait de l'anglais qui vient du pali. Donc, c'est plutôt une traduction de l'anglais que du pali. Et donc, quand je cherche les termes, je regarde les deux. Je regarde ce qu'ils font du côté de l'anglais, mais je regarde plus ce que la personne fait du côté du français. Et comment lui, il traduit le terme pali en français. Et donc, de nos jours, je pense que les gens, on utilise les mots, et donc on essaie de trouver un mot qui parle. Et donc, les gens se commencent à se demander, mais est-ce qu'on ne pourrait pas parler de présence ? Le petit problème avec parler de présence, c'est qu'on peut le prendre comme un terme qui a à faire avec être présent ici et maintenant, mais en français, présence veut vouloir dire quelqu'un qui a de la présence, presque de la prestance. Et donc, on part un peu dans différents sens. Comme j'ai de la présence, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que juste que je suis présent à ce qui se passe sans m'y accrocher de façon bienveillante? Ou est-ce que ça veut dire que j'ai de la présence?
Sans compter qu'on peut être présent et pas...
Ça, c'est autre chose. Donc, alors généralement, j'étais en train de me dire, en fait, que je ne sais pas si je suis bookée pour venir l'année prochaine, mais si je viens l'année prochaine, je me disais, on pourrait faire quelque chose sur Sati. et regarder toutes les différentes façons dont on pourrait voir Satie. Ça, je pense que ça pourrait être un peu utile, en fait.
Mais donc, en français, Satie, enfin, en traduction directe, pas en passant par l'anglais, Satie, ça se dit comment, alors, en français ?
En français, il y a tellement de choses, parce que le problème, c'est qu'on a Satie, mais après, il y a plusieurs termes ensemble. Le problème, c'est qu'on a Satie, donc nous, on a élevé Satie comme étant, parce que c'est simple, c'est aussi un terme simple à dire, Satie, c'est un terme un peu facile à expliquer. Mais en fait, dans les textes, il y a beaucoup de Yoniso Manasikara. Alors là, les termes deviennent un peu plus compliqués. Alors moi, je me dis, est-ce que je vais faire un week-end sur Yoniso Manasikara ? J'aurais peut-être pas beaucoup de monde. Et là où on part dans Sampajanya, on part dans Deep, parce que dans les textes, on a plein de termes, il n'y a pas que Sati. Donc, John Kabat-Zinn a pris le terme Sati parce que c'était un terme facile à utiliser, mais dans un contexte bouddhiste, on n'a pas juste Sati. On a aussi le discernement, on a aussi l'attention proche, on a aussi... Il y a plein de choses qui vont ensemble. Et donc, il y a toutes ces qualités, c'est juste une différentes facettes, des différentes choses, différents aspects. Alors c'est toujours un peu compliqué, il faudrait que mon bouquin est dans ma valise, et j'ai deux pages dans mon petit bouquin où j'ai toutes les références de toutes les façons dont on traduit Sati, Yoniso Manasikara, Sampajanya et tous ces termes qui sont autour de ce qu'on appelle de nos jours pleine conscience. Mais c'est un peu comme zen. Ah, mais en français, zen est devenu un mot ordinaire. Et donc, moi, je le vois à toutes les sauces. T'as du zen dans le shampoing, t'as du zen dans la voiture, t'as du zen partout. Alors, pour les gens en français, ça veut juste dire cool. C'est cool.
Alors, en fait, le zen, c'est pas cool du tout.
Alors, moi, ça me fait toujours... Ah ! Je rigole. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce qu'on va peut-être s'arrêter là? S'il n'y a pas autre chose, merci beaucoup. C'était un très bon week-end passé ensemble. J'ai beaucoup aimé explorer la tonalité avec vous. J'ai beaucoup apprécié ça. J'ai beaucoup apprécié de faire ça avec vous. Et puis, il y a des petites annonces.
Alors tout d'abord, ben, nous souhaitons remercier Martine de la part de nous tous, de la part de Terre d'Éveil, avec un profond sentiment de gratitude de nous avoir permis de passer ces deux journées. Alors j'allais dire de votre présence, donc je vais dire de Martine, et également ben, de votre enseignement, toute cette richesse. Merci beaucoup, merci de reconnaissance. Alors pour ceux qui l'ont demandé, et pour les autres aussi, les enseignements, vous pouvez les retrouver rapidement sur le site de Terre d'Éveil. On enregistre. Sachez que j'ai entendu, je n'ai pas pu prendre de notes, mais vous pouvez facilement avoir accès à ces enseignements. Également, voir tout ce que Terre d'Éveil propose, donc le calendrier des retraites, il y a également pas mal de documents, il y a beaucoup de choses, donc je vous invite vraiment à aller sur ce site de Terre d'Éveil. Alors, au niveau des retraites, elles sont annoncées sur le site jusqu'à fin d'année, donc jusqu'à fin décembre. Alors, la prochaine a lieu ici, au Forum, avec Stephen Batchelor.
Le Dharma de Montaigne.
Dans 3 semaines.
Voilà, le 6 et le 7 mai. 6 et 7.
6 et 7.
5 et 6. Alors, pardon, c'est le 5 et le 6. Alors, en ce qui concerne notre association, bon, vous avez compris qu'elle est animée et organisée par des bénévoles. On fonctionne que grâce et à travers le bénévolat. Donc, si certains ou certaines d'entre vous ont le temps, la possibilité et l'envie de s'impliquer, vous êtes très bienvenus. On a un tas de choses à faire. Alors, vous pouvez nous aider à manager une retraite. Alors, on n'est jamais seul au début, hein, je vous rassure. Moi, c'était la première fois. Et j'ai été vraiment bien accompagnée, on n'est pas lancé tout seul au début. Et on a également besoin d'un tas d'autres choses. Alors on a mis une liste sur la table ici. Vous pouvez simplement indiquer votre nom et votre mail. Et on vous contactera pour vous proposer de nous aider. Alors dernier élément très pratique. Si vous pouvez aussi, pour certains d'entre vous, nous aider simplement à ranger un petit peu la salle, ranger les chaises, on serait très content également d'avoir ce petit coup de main avant de partir. Voilà, et merci à vous, merci de votre participation et d'être venu. Merci. Et Martine, à nouveau, merci.
Adhérez, adhérez, adhérez.
Merci. Parce que je suis assez contente, en fait, de ce que j'ai fait.
Ah, là, c'était bien.